Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une forme de travail inédite sur le tilt. C'est une manière de travailler à la croisée du slash et du salariat qui va interpeller toutes celles et ceux qui recherchent un emploi qui allie flexibilité et pluralité des projets tout en conservant la sécurité du salariat. Intéressant, n'est-ce pas? Il s'agit du temps partagé au sein d'un groupement d'employeurs. Pour décortiquer cette forme de travail, j'ai convié à mon micro Juliette Mucchielli, la directrice générale de Venetis, un groupement d'employeurs bretons. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs ?» Qu'est-ce que ça veut dire concrètement « travailler en temps partagé » Quel est le modèle contractuel de cette forme de travail? Quels sont les bénéfices et les inconvénients de ce mode de travail pour les talents? Et à quel type de profil le temps partagé est-il adapté? Juliette nous partage les enjeux et le fonctionnement de ce modèle flexible qui, selon moi, répond plutôt très bien aux besoins des entreprises et aux aspirations des talents. Je ne pouvais donc pas passer à côté. Bonne écoute! Bonjour Juliette.
Bonjour Léa.
Bienvenue sur le Tilt.
Merci pour ton invitation.
Je suis ravie de te recevoir. Ensemble, on va parler d'une forme de travail inédite sur mon podcast. On n'en a encore jamais parlé. Donc, je suis ravie que tu sois la bonne personne pour le faire. Tu es la directrice générale de Venetis. C'est un groupement d'employeurs bretons. Alors, ça doit être une formulation que peu de personnes connaissent dans mes auditeurs et mes auditrices. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Juliette, sans parler de ton travail, s'il te plaît?
Tout à fait. Alors, je suis Juliette. Pour me caractériser, je pense qu'on pourrait dire que je suis une éternelle optimiste. C'est un mot qui me convient bien. Je suis aussi une amoureuse de la nature. Je suis extrêmement curieuse. Je suis impatiente aussi et j'ai soif d'aventure, j'ai envie de faire plein de choses, donc j'aime bien quand ça va vite. Et puis je multiplie les projets, les engagements, toujours collectifs. Et puis peut-être un dernier trait pour me caractériser, je suis assez extravertie. Je m'épanouis dans le collectif, même si plus je vieillis, plus je ressens parfois aussi le besoin d'être seule.
D'accord.
Voilà, en quelques mots.
Très belle présentation. Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui?
Donc, comme tu le disais, je suis la directrice générale de Venetis depuis 3 ans, qui est un groupement d'employeurs qui est assez unique en France, qui est basé dans l'Ouest, donc dans le Morbihan et aussi en Loire-Atlantique. Et c'est pour ce qui concerne le périmètre, c'est une organisation qui compte 160 salariés, un peu plus de 340 adhérents, mais on y reviendra, voilà, et qui génère entre 6 millions et 6 millions 3 de chiffre d'affaires chaque année. Voilà.
Super, top. Qu'est-ce qui t'a mené à cette expérience-là, finalement?
C'est le fruit de beaucoup d'expériences qui se sont passées au fil des ans. Et finalement, c'est un projet qui me ressemblait, que j'avais envie de conduire. C'est un projet qui a 27 ans cette année, donc c'est pas moi qui l'ai fondé. Mais j'ai eu grand plaisir à accepter la proposition qui m'a été faite d'en prendre la direction générale parce qu'il était à la confluence de mes aspirations et de mes compétences à ce moment-là de mon parcours professionnel. Et donc à la fois sur les métiers de l'emploi, du recrutement que je connaissais bien de par mes précédentes expériences, mais aussi avec une forme de gouvernance particulière dont on parlera tout à l'heure, qui est l'association, qui est aussi un milieu dans lequel j'ai beaucoup œuvré, parce qu'une grande partie de ma carrière, je l'ai faite dans les organisations non-profit.
Super, top. Alors, allons-y. Est-ce que tu peux nous dire, Juliette, ce qu'est un groupement d'employeurs?
Alors, c'est un peu un ovni dans le monde RH, un groupement d'employeurs, même si maintenant, ça fait de nombreuses années que le modèle existe. C'est une association créée par des dirigeants d'entreprise pour des dirigeants d'entreprise afin de leur faciliter la vie sur le plan RH. Voilà, donc grosso modo, on partage des salariés avec toutes ces entreprises adhérentes dont je parlais, 340, qu'on recrute évidemment avec soin, qui sont recrutés en CDI par le groupement d'employeurs et qui ensuite sont mis à disposition de nos entreprises adhérentes. Donc la bonne personne, au bon endroit, au juste temps, au vrai coût et qui travaille à minima dans deux entreprises. L'idée, c'est de mutualiser les compétences pour que le dirigeant puisse se concentrer sur son cœur de métier et avoir à ses côtés des gens qui ont une expertise qui vont le faire accélérer, grandir et lui permettre de réaliser ses projets.
Génial. Donc en fait, du côté des entreprises, ça permet d'avoir un modèle RH peut-être plus flexible sur certains métiers. Et du côté des talents, ça permet aussi de pouvoir diversifier finalement les personnes pour qui on travaille.
Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis au fil du temps, en fait, le groupement d'employeurs que j'ai le plaisir de diriger, il s'est diversifié. Et donc aujourd'hui, au-delà de ses missions en temps partagé, qui reste son cœur d'activité, on mutualise d'autres choses entre dirigeants sur le plan RH, et notamment des formations, mais aussi des contenus, des études qui permettent à chacun d'aller plus loin.
Ah, génial. Donc, ça veut dire que les entreprises, vos adhérents, comme vous les appelez, ils profitent aussi de tout un écosystème.
Exactement.
Pas en interne, mais dans ce groupement-là.
Voilà, il y a un effet réseau. Et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que les groupements d'employeurs sont des outils de territoire, parce qu'ils sont une sorte de hub de compétences et de liens entre dirigeants.
Alors justement, on parle de territoire. Pourquoi cette implantation sur le territoire et pourquoi vous êtes implanté en Bretagne ?
Oui. Alors, en fait, des groupements d'employeurs, à l'origine, le modèle, il est né chez les agriculteurs. Souvent, ils sont très innovants et ils font parfois peu savoir ce qu'ils font, mais en fait, ils créent des structures extrêmement innovantes. C'est le cas des groupements d'employeurs qui a été inventé dans ce secteur-là. Et en fait, en 97, il y a deux dirigeants d'entreprise un peu pionniers, on va dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, c'était carrément inédit, qui ont décidé de prendre ce statut-là pour résoudre une problématique qu'ils avaient sur le territoire. C'était deux dirigeants d'industrie à Vannes. Et ils se sont dit, finalement, on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter et à fidéliser de la main-d'œuvre dans nos entreprises. Et de la même manière, et en face, on ne peut pas proposer de contrat sécurisant pour les salariés qu'on accueille. Donc, on va créer quelque chose où, en fait, l'été, ils viendront travailler chez moi, l'hiver, ils travailleront chez toi, parce qu'il y avait une grande saisonnalité à ce moment-là. Et on va les recruter sous forme de CDI via une association, un groupement d'employeurs. Donc, en fait, c'est né de la volonté de 10 dirigeants du pays de Vannes qui ont embarqué avec eux tout un tas de leurs pairs au fil des années. Et puis après, ça a grossi. Mais en fait, les groupements d'employeurs, il en existe beaucoup d'autres en France. Tous ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais il en existe presque partout en France. D'ailleurs, j'invite les personnes que ça intéresse à aller voir sur le site du SNGE, le Syndicat National des Groupements d'Employeurs, qui répertorie nos structures sur le territoire. Et finalement, en fait, c'est toujours né de la volonté d'acteurs locaux qui décident de faire ensemble, de construire ensemble un outil RH pour eux, de leur territoire.
Ah, c'est génial. L'histoire est chouette, ouais. Je trouve.
Et après, on s'est déployé en Loire-Atlantique aussi parce qu'il y avait déjà un groupement d'employeurs qui existait et qui a souhaité se rapprocher de nous. Et donc, en fait, on a fusionné les groupements et on s'est installé de cette manière-là en Loire-Atlantique, sur Saint-Nazaire. Et puis, de Saint-Nazaire, on s'est déployé également sur Nantes.
Ok, super. Et alors, tout à l'heure, tu parlais du fait que vous êtes une association. Pourquoi justement avoir choisi une gouvernance associative et justement la nourrir ?
Oui. Alors, en fait, les groupements d'employeurs, tels que c'est écrit dans les textes, hein, puisqu'on on bénéficie de quelques lignes dans le Code du travail et dans quelques outils
quand
juridiques,
même.
Voilà, même si ce n'est pas bien épais. Et en fait, le groupement d'employeurs ne peut avoir que deux formes juridiques, soit associatives, soit coopératives. Donc, de toute façon, dans les textes, il y a une forme d'obligation à prendre ce statut-là. Après, c'est vraiment un format qui convient extrêmement bien à la gestion d'un projet comme un groupement d'employeurs pour tout un tas de raisons. D'une part, le principe de non-lucrativité. On a un service à destination des dirigeants pour l'épanouissement des talents. Et donc, il n'y a pas d'objectif de faire du profit ou de redistribuer des dividendes. Donc, la non-lucrativité qui est inhérente à nos activités, elle s'héberge très, très bien dans un format, évidemment, associatif. Les valeurs aussi de coopération et de solidarité qui sont inhérentes au groupement d'employeurs se retrouvent bien aussi dans ce statut-là, parce qu'il faut savoir que dans un groupement d'employeurs, les adhérents sont solidaires des dettes éventuelles du groupement.
D'accord. Alors,
sauf que nous, on a mis beaucoup de choses en place pour que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, c'est un principe fondateur des groupements d'employeurs. Ensuite, il y a une gouvernance démocratique. Comme je disais en démarrage, c'est un outil créé par les dirigeants pour les dirigeants. Donc, il y a une prise de décision collective. Chaque adhérent a une voix et peut influer sur la tarification, sur les projets, etc., du groupement d'employeurs. Donc, ça, c'est très important. Et puis aussi, c'est un outil de territoire, comme je disais. Donc, ça permet la forme associative d'associer des partenaires à ce projet et de faire aussi une dynamique territoriale autour.
Ok, super. Alors, j'ai eu la chance d'assister à votre soirée annuelle à la colloque à Lorient. Alors, je ne sais pas combien il y avait de dirigeants ce soir-là, mais ils étaient nombreux. Vous aviez proposé un format hyper innovant autour d'un concept de radio. Les gens vous ont écouté pendant 2 heures, c'était assez incroyable. Et justement, tous ces dirigeants qui se rejoignent et qui se regroupent en une soirée, c'était plutôt impressionnant. C'est quoi le bénéfice pour justement ces personnes-là, ces dirigeants, d'adhérer à ces groupements d'employeurs-là?
Alors, il y en a beaucoup des bénéfices d'adhérer à un groupement d'employeurs pour un dirigeant. Déjà, c'est bénéficier d'une compétence qui est ultra qualifiée à temps partiel. Donc, nous, on la recrute, cette compétence, en fonction de leurs besoins. Et bien sûr, le fait qu'on puisse la mailler, parce que dans notre jargon, on appelle ça mailler, le fait de trouver des morceaux de travail complémentaires pour nos salariés, du coup, ça permet que les salariés s'engagent dans le long terme à temps partiel chez eux, mais en fait à temps plein ou à temps choisi chez nous. Ça offre évidemment une flexibilité sans équivalent dans le monde du travail, parce que le lien qui unit nos adhérents à Vénétis, c'est un contrat de prestation de service avec la possibilité de sortir sous 3 mois. Et nous, on s'engage évidemment à trouver le temps qui va manquer aux salariés. Donc en fait, la personne reste en CDI alors que l'adhérent ne peut plus forcément accueillir cette ressource. Donc une flexibilité qui est précieuse dans un monde assez incertain, dans cette permacrise comme certains l'appellent, qui font que systématiquement, c'est la crise permanente pour nos adhérents.
Voilà. Permacrise, j'aime bien, je note.
Voilà. C'est un terme du LABRH pour rendre D'accord. à César ce qui appartient à César. Et après, c'est aussi une économie de moyens, c'est-à-dire qu'on partage des coûts. Il y a des dirigeants qui n'auraient pas pu se payer à plein temps, par exemple, une ressource DRH, mais qui, par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, vont pouvoir bénéficier d'une compétence assez pointue, 2 jours par semaine, et la mutualiser avec un autre adhérent. C'est aussi une question d'efficience, parce que beaucoup de nos adhérents nous disent finalement un salarié en temps partagé, il est super efficient. Alors pourquoi? D'une part, parce que comme il n'a qu'un ou 2 jours par semaine, forcément, il va avoir à cœur de faire tout ce qu'il a à faire pour que tout puisse continuer à tourner quand il n'est pas là. Mais c'est aussi qu'en fait, il est dans d'autres univers à côté, donc il se nourrit et il y a des synergies qui s'opèrent entre ses adhérents. Et donc, voilà, il a ce regard, il crée des passerelles, des ponts entre différents univers, et donc il est particulièrement efficace. Évidemment, un dirigeant d'entreprise, il fait appel aussi à son groupement d'employeurs parce qu'il ne veut pas s'occuper de l'administratif RH, notamment pour les toutes petites TPE. Bah, nous, on s'occupe de toute la partie contractuelle, de toute la partie rémunération, etc., de toute la partie employeur. Ouais. Donc ça, c'est une charge en moins. Il y a l'effet réseau, dont on parlait tout à l'heure, et la solidarité entre membres qui joue à plein dans un groupement. Et puis, bah, au-delà de ça, ce que je te disais tout à l'heure, on a un partenaire RH externalisé, c'est-à-dire qu'on est là aussi en conseil, même quand on ne va pas forcément travailler en temps partagé ensemble. On est là sur la formation mutualisée, propose des formats un peu différents pour réfléchir au futur du travail pour nos dirigeants des territoires. Voilà, c'est un peu tout ça qu'ils viennent chercher. Après, chacun met le focus sur un sujet plus que sur un autre. Je disais tout à l'heure, les TPE, la partie administrative va être assez prégnante pour elles, alors qu'une boîte plus structurée va vraiment venir chercher la flexibilité, la compétence ultra qualifiée. Mmh. Ça dépend aussi du moment de vie de l'entreprise.
Oui, parce que du coup, j'imagine que sur les adhérents que vous avez, au fil de la vie de l'entreprise, en fonction des métiers et des besoins, vous pouvez travailler avec elles de manière différente et flexible, en fait.
Tout à fait. Mmh. Souvent, dans les PME qui se structurent, qui passent des seuils de croissance, on va plutôt être sur de la création de fonctions un peu structurantes. On va créer la fonction com et marketing, on va créer la fonction RH, on va créer la fonction achat en temps partagé, on va créer la fonction informatique. Alors que dans des boîtes qui sont plus grosses, parce qu'on travaille aussi avec des ETI et des grands groupes, on va venir renforcer un service avec une expertise complémentaire ou alors apporter une compétence supplémentaire en capacitaire parce qu'un service est structurellement, on va dire, en surcharge de travail. Mmh. Donc, en fait, on va répondre à des besoins qui sont un peu différents en fonction de ces phases de vie.
Mmh. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle, ça me fait quand même... Moi, je parle pas mal de freelancing sur le tilt parce que c'est une forme de travail qui est très plébiscitée et très questionnée par les gens qui, justement, recherchent de la flexibilité dans leur job. C'est intéressant parce que, du coup, pour le talent, c'est aussi à la croisée de cette flexibilité tant recherchée et en même temps de la sécurité d'un emploi par un contrat comme le CDI.
C'est clair. En fait, c'est vraiment ça que viennent rechercher nos candidats et ce qu'apprécient nos salariés. C'est qu'il y a cette forme de diversité qui est offerte par le temps partagé qui peut ressembler au freelancing aussi, cette liberté d'exprimer son point de vue auprès du dirigeant parce qu'on n'est pas totalement rattaché à lui parce qu'on a le groupement d'employeurs aussi, même s'il y a une délégation de subordination au quotidien. Mmh. Bah, finalement, si ça se passe mal, si il n'a pas apprécié ce qu'on a dit, etc., bah, on dit bah, « moi, je voudrais peut-être aller dans une autre entreprise », etc. Donc, il y a cette facette-là qui ressemble un petit peu à l'entrepreneuriat. Mmh. Aussi, le côté création de poste, on va sur des nouveaux sujets, on est beaucoup en mode projet, etc. Mais de l'autre côté, jusqu'à présent, alors après, peut-être que ça évoluera, je le souhaite, mais on n'a rien trouvé de mieux que le CDI pour faire des projets de vie, malheureusement. Et donc, cette sécurité de l'emploi, bah, elle est aussi offerte par le système groupement d'employeurs. Donc, ça permet d'allier les deux. Ouais. Et souvent, on dit qu'on accompagne beaucoup des intrapreneurs, c'est-à-dire souvent des salariés qui ont ça en eux d'être en capacité comme ça de co-créer finalement leur job.
C'est hyper intéressant. Je trouve que c'est à la croisée de beaucoup de besoins et finalement d'innovation dans la manière de travailler, tout en gardant le côté plus classique sécurisant.
Ouais. C'est un peu ça. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est très différent de l'entrepreneuriat, c'est que quand on est entrepreneur, on a une dimension commerciale assez importante. Et finalement, nous, on est les agents des salariés bénéficiaires. Donc, en fait, c'est pas eux, même si on co-cherchent ensemble, donc on les inclut dans la recherche de leurs nouveaux adhérents, etc. Néanmoins, c'est nous qui avons la responsabilité de leur trouver des projets qui vont leur correspondre. Donc cette partie commerciale, entre guillemets, elle n'est pas à faire quand on est en temps partagé.
Et c'est quoi la différence avec le portage salarial?
Bah, le portage salarial, c'est pareil, la dimension commerciale, même s'il y a un effet réseau dans le portage, elle est quand même à charge du salarié, enfin du salarié porté. Et puis il y a autre chose, c'est que nous, quand on s'engage sur un temps choisi. Donc par exemple, le salarié nous dit moi je souhaite travailler 4 jours par semaine, ou 35 heures sur 4 jours, ou 5 jours par semaine, ou 3 jours par semaine. Et nous, on va se mettre en marche pour lui apporter sur le long terme 4 jours, 5 jours, enfin ce qu'il choisit. C'est-à-dire que c'est très différent du portage où finalement c'est en fonction des projets. Il y a peut-être des semaines où on va travailler 2 jours, des mois où on va travailler 5 jours 5, puis d'autres où on n'aura quasiment rien. Et finalement, comme on est rémunéré certes avec une fiche de salaire, donc avec un certain nombre d'avantages, mais au regard de ce qu'on a fait, ben, on peut avoir une variabilité de salaire qui est importante, que dans le partagé, il n'y a pas du tout de variabilité. Tous les mois, on a le même salaire.
Ouais. Et du coup, ça c'est quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que dans justement ce temps choisi, comme tu l'appelles, on a possibilité en tant que collaborateur Vénétis de cumuler les modes de travail. Donc par exemple, je travaille chez vous les 2/3 de mon temps, et puis le tiers restant, je suis freelance avec un statut auto-entrepreneur ou quelque chose, un mode de travail plus entrepreneurial ailleurs. Est-ce que c'est possible ou pas?
C'est tout à fait possible, avec quelques garde-fous pour que le système continue de fonctionner. Ce sur quoi on est bon, c'est pour qu'il n'y ait pas de multi-activité. On sait que la multi-activité salariale, elle est souvent au détriment du salarié qui, en plus de devoir faire toutes les démarches, etc., se retrouve souvent, quand il perd une des entreprises, dans une difficulté importante. Donc, nous, on ne fait pas de multi-salariat. Donc, si la personne a par ailleurs un autre employeur, elle ne va pas travailler chez Vénétis. Par contre, on est l'employeur unique salarié de la personne. En revanche, quand il y a une activité entrepreneuriale à côté, ça, c'est tout à fait possible, sous réserve qu'elle ne vienne pas faire concurrence à son activité de salarié. Donc, par exemple, et je pense que tu auras l'occasion peut-être d'interviewer Hélène qui viendra témoigner. Hélène, elle a une activité entrepreneuriale à côté. Elle est photographe en freelance. Et chez Vénétis, elle a démarré en tant que QSE, donc en qualité, sécurité, environnement dans l'industrie. Et puis, elle a une reconversion interne à Vénétis. Maintenant, elle est communicante. Donc, elle a démarré QSE avec son activité de photographe. Et maintenant, elle est en com et marketing chez nos adhérents. Et elle a son activité de photographe à côté. Donc, c'est possible, sous réserve, effectivement, que les deux activités ne se fassent pas concurrence.
Génial. Ça m'intéresse à fond, ce cumul des modes de travail. Donc, je serais ravie de pouvoir échanger avec Hélène. Est-ce que tu peux nous redire peut-être de manière contractuelle comment ça fonctionne entre le collaborateur, vous, Vénétis, le groupement d'employeurs, et l'adhérent, donc l'entreprise dans laquelle le collaborateur va travailler? Comment est-ce que on deal ces contrats-là? Qui signe où? Comment ça se passe?
Ouais. Alors, avec le salarié, on a un contrat de travail, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'au tout démarrage. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on a le temps complet, c'est-à-dire qu'on a plusieurs morceaux de temps de travail sur la même compétence et on recrute quelqu'un qui va faire l'ensemble du job. Et dans ce cas, on recrute tout de suite sur un temps qui est défini, 4 jours, 5 jours, etc. Soit on va faire ce qu'on appelle un démarrage en temps partiel progressif. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage mutuellement à, au bout de 2-3 mois max, trouver le complément pour faire le temps de travail choisi. Mais en tout état de cause, on signe que des CDI chez Vénétis, quelques exceptions près sur du remplacement de congé maternité, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc, c'est un CDI qui est signé sur le temps décidé avec les missions qui sont confiées dans les besoins qu'on a. Ça, c'est pour la façon de contractualiser avec nos salariés, sachant que ça offre une flexibilité aussi côté salarié, parce qu'on peut très bien signer avec Vénétis au démarrage n'importe quoi 3 jours par semaine, parce qu'on a un projet de vie, d'autoconstruction familiale quelconque. Et puis deux mois après ou un an après, dire bah, finalement, je vais repasser à temps plein, parce que ça y est, j'ai fini mon projet, donc je repasse à temps plein. Et donc, on peut changer le contrat dans un sens ou dans un autre de façon assez simple et fluide. Voilà. Après, avec nos adhérents, on a un contrat de prestation de service, comme je disais au départ. Donc, on a ce qu'on appelle une mise à disposition de personnel. Donc là, ça passe par un contrat commercial assez classique, avec des conditions générales qui sont évidemment de nature à nous aider dans les périodes de remaillage. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent laisser 3 mois pour que tout le monde puisse se retourner. C'est-à-dire qu'un adhérent qui passe par Vénétis, s'il est, pour X ou Y raison, il doit se séparer de la ressource Vénétis qu'il a, il a une prévenance de 3 mois, ce qui nous laisse le temps, nous, structure, de retrouver le temps de travail qui va manquer pour que le salarié n'ait pas de rupture de contrat. Parce que comme on est dans une logique de non-lucrativité, on n'a pas des marges folles et donc on ne peut pas se permettre de porter des salaires sans les facturer. Donc nous, on a besoin de ce temps-là. Et puis le salarié, il a aussi besoin de se retourner, etc. Donc voilà, il y a ces 3 mois de chaque côté. Un salarié qui quitte une entreprise, il doit laisser 3 mois à l'entreprise pour que nous, on retrouve une ressource pour venir l'accompagner. Et l'entreprise, elle doit nous laisser 3 mois pour retrouver un poste salarié complémentaire au salarié.
Ok, super. Et du coup, toi, en tant que directrice générale de Vénétis, tu dirais que c'est quoi les bénéfices pour les collaborateurs, justement ?
Alors, pour les collaborateurs, on en a parlé, mais je reviens dessus parce que c'est important, c'est la stabilité de l'emploi. C'est à la fois sécuriser son emploi et aussi dans des périodes... Enfin, nous, on a un tissu économique sur nos territoires qui est composé à beaucoup de pourcents de TPME. Donc, parfois, à la faveur d'un certain nombre de crises, il y en a qui vont plus ou moins mal. Et donc, en fait, le fait qu'on soit 340 entreprises de plein de secteurs d'activité différents, de plein de tailles différentes, même s'il y en a qui vont moins bien, on va toujours être en capacité de maintenir le contrat de travail et de repositionner la personne dans une entreprise d'un secteur qui va mieux. À titre d'exemple, pendant la Covid, il y a eu 0 licenciement chez nous, alors que c'était quand même une période où ça allait assez mal pour beaucoup d'entreprises, parce que justement, à la fois l'effet solidarité et le fait qu'on soit multisectoriel a permis de retrouver des contrats pour tous nos salariés qui perdaient malheureusement un morceau de leur temps de travail lié aux difficultés économiques de nos adhérents. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça permet aussi d'avoir un meilleur accès à ses droits via un contrat de travail qui est unique avec la couverture sécurité sociale, la formation professionnelle, la prévoyance, une convention collective qui est pour tout le monde, un CSE, des dispositifs voilà, qui permettent quand même d'être sur... un contrat un peu comme dans une
modèle entreprise.
De grande entreprise, ouais. Mais avec cette spécificité-là. Après, en avantage, il y a quand même vraiment la diversité des expériences professionnelles que ça offre. Ça convient très bien aux personnes qui ont justement envie de voir plein de choses, qui n'aiment pas la routine, etc. La liberté dont je parlais tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Un vrai suivi RH, parce qu'en fait, comme chaque salarié a un référent dans la structure Vénétis, en plus de ses adhérents qui ont évidemment la délégation de la subordination. Donc, c'est comme parfois un coach, un mentor, un accompagnant, un référent, peu importe comment on l'appelle, mais c'est un tiers dans la relation qui est vraiment là pour eux, pour leurs problématiques. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est en fait ce lien qu'ils ont avec ce référent qui ne va pas voir le quotidien des entreprises, même s'il a connaissance de ce qui se passe, bien sûr, mais qui va avoir cette hauteur-là pour accompagner sur le long terme le salarié. La montée en compétences, parce qu'on dispense énormément de formations à destination de nos salariés. Pour te donner un exemple, l'année dernière, on a formé 50% de notre effectif. Donc, c'est très important.
Et vous les formez sur les métiers sur lesquels ils travaillent déjà ? Est-ce que vous les formez sur les besoins des adhérents ? Comment ça se décide, en fait, une formation pour un collaborateur ?
Bah, les deux, mon capitaine. déjà, on est très, très attentifs aux besoins de nos adhérents pour qu'ils aient toujours des salariés hyper opérationnels et efficaces sur les sujets qui sont les leurs. Et par ailleurs, nous, en tant qu'employeurs, on a une vision aussi pour la formation de nos salariés. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on déploie des programmes qu'on appelle intra, donc qui concernent des groupes composés de salariés mis à disposition en temps partagé. Et on travaille sur deux plans, c'est-à-dire le plan métier, avec cette idée que aujourd'hui, une compétence qu'on appelle hard dans le jargon, elle a une durée de vie qui est de plus en plus réduite. Oui. Je pense que... et forcément, il y a toujours besoin de mettre à jour ses compétences métiers. Donc là, on a des gros programmes de formation sur ses compétences métiers, aussi avec les évolutions réglementaires et sociétales. Enfin, par exemple, on considère nous, que ne pas former nos contrôleurs de gestion, nos responsables administratifs et financiers ou nos comptables à la comptabilité extra-financière, avec tout ce qui arrive sur les CSRD, etc., ben, ça veut dire que demain, ils ne seront plus employables. Donc, nous, on a une responsabilité en tant qu'employeur de les faire monter en compétence sur ces sujets-là. Donc, à la fois des sujets d'expertise métier, des sujets de prospective métier. Il va falloir quoi demain à un communicant pour continuer à être efficace dans son métier avec l'arrivée de l'IA ? Il faut qu'on le forme à quoi ? C'est des questions qu'on se pose, évidemment, de façon très importante. Et aussi, des questions toujours sur les métiers. Mais par exemple, on sait que la cybersécurité est un sujet aujourd'hui énorme, parce qu'avec la surface d'exposition qui augmente, la numérisation de tous les sujets, si nos salariés ne sont pas formés à la cybersécurité, s'ils ne sont pas un rempart chez nos adhérents, ce sera problématique. Donc là, on engage un très gros programme de formation à la cyber de tous nos salariés, quel que soit leur métier. Voilà, donc ça, c'est la réflexion plutôt métier, prospective, en plus des besoins précis de nos adhérents. Et après, il y a un deuxième volet, qui est vraiment un volet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le volet des compétences comportementales.
Soft skills.
Les soft skills. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, déjà pour s'épanouir en temps partagé, il faut déjà disposer d'un certain nombre de compétences comportementales importantes. Et nous, on a aussi envie de les faire grandir, ces compétences comportementales. Donc, même s'ils ont déjà, nos candidats et salariés qui nous rejoignent, des prédispositions sur un certain nombre de sujets, il faut que nous, on soit en capacité de leur proposer des modules qui leur permettent systématiquement de devenir meilleurs. Donc, c'est aussi sur ces sujets-là qu'on intervient avec des modules qu'on voit dans peu de boîtes. On a des formations à l'adaptabilité, on a des formations à la curiosité.
Ah, j'adore.
On a des formations à, évidemment, à tout ce qui est prise de parole en public. On a des formations sur l'organisation, parce qu'évidemment, en temps partagé, c'est un sujet. On a des formations sur tout un tas de sujets comme ça qui sont vraiment de l'ordre de la compétence comportementale.
Super. Alors, justement, tant qu'on est dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités requises, les compétences comportementales plébiscité pour un collaborateur en temps partagé?
Donc, il ne faut pas aimer la routine, sinon ça ne le fait pas du tout. Si on veut retrouver son poste de travail, ses petits trucs, c'est compliqué. Donc, il faut avoir cette appétence-là quand même pour ce qui bouge, pour le changement, etc. Il faut être particulièrement bien organisé, parce que on passe d'une entreprise à une autre. Alors, le minimum d'entreprises pour travailler chez nous, c'est 2. Mais on a des collaborateurs qui ont jusque 5 entreprises. Ouais. Donc, quand on change tous les jours d'entreprise, il faut avoir la tête
bien
structurée. Il
faut être bien câblé.
Quoi.
Ouais.
Voilà.
Hein, bien branché au bon endroit.
Pas partir dans le mauvais sens le matin et tout ça. Quoi. Donc, l'organisation, c'est clé.
C'est vrai. Le matin, quand on met le
GPS. C'est rare qu'il y ait 5 entreprises. C'est vraiment sur des postes très particuliers. Mais même 2-3, quand il y a du projet, ça nécessite quand même de bien s'organiser. Ensuite, il faut de très bonnes capacités de communication. Et ça, quel que soit le métier. Qu'on travaille en informatique, en comptabilité chez nous, en achat, en qualité. Il faut être un très bon communicant et avoir la capacité de se mettre à la place de toutes les parties et de pouvoir parler et organiser tous les sujets qu'il peut y avoir autour du temps partagé avec ses 2 ou 3 adhérents, plus Vénétis, plus soi. Parce qu'en fait, dans l'équation, il y a quand même parfois 5-6 parties prenantes. Donc, il faut que la personne soit une excellente communicante. Parce que sinon, on va au-devant d'ennuis, les gens ne se comprennent pas, etc. Donc, c'est un prérequis indispensable. L'adaptabilité, parce qu'effectivement, quand on est dans une industrie agroalimentaire et le lendemain dans une start-up de la
MedTech... Ça, c'est quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que, justement, vos collaborateurs en temps partagé, ils peuvent être sur des secteurs qui n'ont rien à voir ?
Tout à fait.
D'accord.
Et c'est justement là qu'on crée aussi de la valeur et de la richesse dans ce qu'ils peuvent apporter dans les différentes sociétés.
Ouais.
Donc, au contraire, souvent, ils sont dans des secteurs qui n'ont rien à voir.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui est chez vous et qui a des secteurs qui n'ont rien à voir ?
Oui, on a des personnes qui sont chez nous. Alors, je pense à une en l'occurrence, qui c'est un artisan du bâtiment. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des artisans du bâtiment, qui va être dans une start-up qui fait des produits numériques.
D'accord.
Et qui, sur son troisième adhérent, est dans une industrie, alors plutôt une industrie de la plasturgie, mais encore une fois, rien à voir.
Ah ouais, génial.
Et elle exerce le même métier.
Donc, il y a quand même aussi tu vois, moi, j'accompagne des gens à changer de vie professionnelle ou en tout cas adapter leur carrière. Et souvent, le sujet de la curiosité revient tout le temps. Dire, en fait, moi, je suis quelqu'un de curieux et mon quotidien professionnel ne remplit pas ce besoin-là. Donc, ça peut être aussi une réponse à cette envie d'être stimulé intellectuellement sur divers sujets, divers secteurs.
Ah, complètement. Ceux qui ont besoin de ça, clairement, en temps partagé, ils s'épanouissent beaucoup parce que tu vois, le prochain mot que je voulais te dire, c'était curiosité. Donc, effectivement, il faut avoir cette envie, cette curiosité-là. Et je reviens juste sur l'adaptabilité, mais c'est aussi trois styles de management différents, deux ou trois styles de management différents, deux ou trois équipes très différentes. C'est multiplier aussi le nombre de collègues, le nombre d'interactions. Donc, c'est souvent des gens qui aussi se connaissent bien eux-mêmes et sont à l'aise dans la relation avec l'autre, parce que forcément, il faut s'adapter. C'est pas du tout les mêmes écosystèmes. Et puis, évidemment, une autre qualité, et je terminerai par celle-ci, c'est la proactivité, c'est-à-dire ce côté d'avoir envie. Souvent, comme je te disais, ils sont en création de poste, donc il faut qu'ils prennent les choses à bras-le-corps et qu'ils soient capables d'aller défendre leurs idées, de les porter auprès d'un dirigeant, auprès d'une équipe, pour faire avancer la société.
J'ai une question qui me vient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui travaillait, par exemple, en freelance ou à temps partiel avec une autre entreprise et qui a ramener son client en tant qu'adhérent chez Venetis?
Ouais.
Ah, j'adore.
Ça nous est déjà arrivé plein de fois. Ouais, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit.
C'est vrai, d'accord.
Plus sur les profils cadres, d'ailleurs. Souvent, les profils cadres, quand ils ont envie de travailler en temps partagé, ils arrivent avec un ou deux clients en fait, qu'ils ont en freelance et qui vont passer en temps partagé pour poursuivre la relation avec eux. Donc, ouais, ça arrive.
C'est génial. Ouais, c'est intéressant parce que, pareil, encore une fois, dans les profils que je peux accompagner, parfois, les gens, ils sont déjà en freelance et ils ont envie de modifier quelque chose pour x, y raison, mais ils n'ont pas envie de supprimer la relation avec un client. Donc, c'est une bonne alternative aussi.
Et ça, c'est tout à fait possible pour tous les groupements d'employeurs, de s'y tenter, évidemment, que le client soit d'accord pour devenir adhérent du groupement, parce qu'au-delà du contrat de prestation qu'on a avec notre adhérent, il y a évidemment l'obligation d'adhérer à l'association, donc de payer une cotisation et du coup de rentrer dans une gouvernance participative, donc de participer à des assemblées générales, éventuellement de devenir administrateur. C'est un engagement qui est un peu plus fort qu'une relation contractuelle avec un freelance.
Bien sûr, ouais. Ok. Alors, quels sont les inconvénients côté collaborateur? À quoi on peut s'attendre d'un petit peu moins fun?
Ouais. Déjà, c'est dense quand on parle avec nos salariés. Alors, évidemment, on est très à cheval sur le temps de travail. Donc, chaque heure supplémentaire, complémentaire qui est faite, elle est facturée à l'adhérent. Donc, il n'y a pas, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, on arrive à bien tirer notre épingle du jeu. Néanmoins, en contenu dans la journée, c'est vraiment dense, quoi. Et donc, on peut aussi avoir sur des profils, notamment quand il y a de la gestion de projet dans les postes ou du management, parce qu'on a des gens qui managent en temps partagé, il y a une charge mentale. Effectivement, quand les deux jours, on n'est pas dans l'entreprise et qu'il se passe plein de trucs, ben forcément, ça continue à tourner dans la tête. Donc, cette charge mentale, il faut savoir la gérer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu des formations pour mieux accompagner nos salariés, mais ça peut être un des inconvénients. Après, il y a une forme d'instabilité, entre guillemets, mais qui est inhérente au groupement d'employeurs, qui est qu'en fait, ça a beau hyper bien se passer avec un adhérent, s'il n'a plus besoin de nous, s'il ne peut plus travailler avec nous, on est obligé de changer d'adhérent. Donc, voilà. Donc en fait, il y a une sécurité du contrat de travail, mais finalement, il faut accepter que peut-être les missions se renouvellent, qu'on ne passe pas 10 ans chez le même adhérent, que peut-être pour évoluer dans sa carrière, on soit obligé de changer d'adhérent. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à signifier. Il y a évidemment, alors pour ce qui nous concerne, autant on peut être très bon sur la semaine de 4 jours et de la flexibilité, etc. Autant sur le télétravail, on n'est pas super bien positionné parce que comme nos salariés, ils sont déjà qu'un jour ou deux dans les entreprises, s'ils ne viennent pas physiquement, finalement, le lien et le sentiment d'appartenance à leurs entreprises adhérentes, il ne naît pas et il ne peut pas bien s'opérer. Donc, voilà, sur le faut pas des personnes qui aiment énormément le télétravail. Après, nous, on travaille beaucoup à la proximité entre le lieu d'habitation et l'endroit où sont les entreprises, pour que justement, on soit vraiment dans un maillage très proche du territoire d'habitation.
Oui.
Mais le télétravail est rendu difficile de fait.
Voilà. En fait, je trouve que ça fait sens aussi avec vos valeurs de base. Vous êtes ancré sur le territoire. Donc, dans tous les cas, ça vient aussi avec les déplacements qui vont avec, quoi.
C'est ça. Donc, c'est souvent sur site. Il y a peu de postes qu'on a en télétravail. Après, il y a une autre chose que m'avait dit, d'ailleurs, au tout démarrage où je suis arrivée, quand j'ai interviewé beaucoup de nos salariés, il se peut parfois qu'il y ait des conflits de loyauté entre Venetis et les adhérents. D'accord. Alors ça, je ne l'avais pas forcément mesuré au départ, mais j'avais une comptable, par exemple. Alors, dans le métier de comptable, on doit être extrêmement, bien cloisonner les choses et très confidentiel. Et donc, elle savait des choses sur l'entreprise qu'elle ne pouvait évidemment pas dire à Venetis, tout en sachant que potentiellement, ça pouvait porter préjudice à Venetis parce que...
Oui, voilà. Parce que potentiellement, vous perdez le contrat.
Voilà, peut-être sa prestation, enfin le fait qu'elle soit mise à disposition ne pourrait pas être payée ce mois-ci, etc. Donc ça peut générer une sorte de conflit de loyauté pour ceux qui sont sur ces postes-là, qu'il faut vraiment qu'on apprenne à maîtriser. Et on a fait des gros progrès là depuis quelques années sur ce sujet-là. Mais c'est important de l'entendre. Et évidemment, ce qui prime, c'est la confidentialité. Donc évidemment, eux, ils sont mis à disposition d'un adhérent. Ils se doivent de respecter la confidentialité propre à cet adhérent. Après, nous, on se débrouille après derrière. Mais ça ça peut provoquer ça pour le salarié.
Oui, oui.
Voilà, donc ça, je l'ai déjà entendu. Et puis, évidemment, une communication qui, parfois, peut être complexe parce que bah, quand on coopère, il faut faire des compromis. Et donc, il faut être en capacité, parfois, d'accepter, voilà, de faire un petit pas de côté pour que le système fonctionne.
Mmh, OK, super. Et quels sont les retours que toi, tu entends en interne, justement, sur ce temps choisi, ce temps partagé ?
Bah, le sentiment de liberté et, en fait, d'avoir un pouvoir d'agir. Le sentiment de pouvoir créer son job, en être maître, en fait. Et de ne pas subir, si ça se passe mal, s'il y a un truc qui ne nous va pas, on a notre référent à qui on peut en parler, on peut décider de ce qu'on fait ensemble, on peut avoir un regard extérieur. Et donc, on se sent... en tout cas, ce qui nous remonte assez souvent, c'est ce sentiment d'être maître de son destin professionnel.
Et alors... Si on prend des chiffres, peut-être, comment ça se mesure chez vous, justement, cette satisfaction sur ce mode de travail ? Est-ce que vous avez un bon taux d'engagement des collaborateurs ? Est-ce qu'ils restent longtemps chez vous ? C'est quoi le taux de rétention des gens ?
Alors, déjà, il y a plein d'indicateurs qu'on mesure parce qu'on fait des baromètres très régulièrement auprès de nos salariés. Pour ce qui est de ta question du taux d'engagement et de rétention, en fait, je distinguerais plusieurs types de... de sentiment d'appartenance à Vénétis et au temps partagé chez nos salariés. Mmh. Il y a les aficionados, c'est-à-dire ceux qui ont choisi ce mode-là de travail et qui l'exerceront jusqu'à la fin de leur carrière. Ils trouvent dans le temps partagé exactement ce qui leur convient. Ils adorent le fait de changer de boîte régulièrement, etc. Ils n'ont pas peur du changement. Voilà, donc, ils prennent, quoi.
OK, ils y vont all-in et ils adorent,
ouais,
quoi.
Voilà, okay. Et puis, tu mourras jusqu'à ma retraite. Je dis, c'est génial. donc ça, c'est top. Après, t'en as qui, entre guillemets, passent par le temps partagé un peu comme un booster de carrière, notamment les jeunes diplômés qui nous rejoignent. Souvent, on sait que ça va être des gens qui vont rester un peu moins longtemps, même si je ne fais pas de généralité, parce qu'il y en a qui sont des aficionados dès le plus jeune âge et qui restent très, très longtemps. Mais pour certains, ça va être aussi l'occasion d'exercer leur métier dans trois écosystèmes complètement différents, de booster leurs compétences et du coup de pouvoir rapidement accéder à des postes à responsabilité ou à des postes d'expertise plus importants. Je te prends un exemple, un contrôleur de gestion qui sort d'école, qui va faire 2 jours dans une entreprise Indus sur le contrôle de jet Indus, 2 jours dans une boîte de service sur du contrôle de jet financier et qui va faire 2 jours dans... Enfin, il y a une troisième... Non, il ne travaille pas 6 jours. Qui va faire sa 5e journée dans une autre boîte où il va faire du contrôle de jet commercial. Bah, au bout de 3-4 ans, on va lui proposer un poste de responsable administratif et financier ou de DAF, quoi, parce qu'il aura vu plein de choses, il aura été confronté à plein de trucs. Donc voilà, donc ça, c'est le côté un peu booster de carrière. Et après, on adresse aussi une catégorie de personnes qui sont discriminées sur le marché de l'emploi et qui, en fait, le temps partagé va être la remise du pied à l'étrier sur le marché de l'emploi. Je pense à des gens qui sont congés longue maladie, par exemple. Retour à l'emploi, pas toujours évident. Je pense à des gens qui sont considérés comme seniors, alors comme on est senior de plus en plus tôt. Voilà, mais qui en fait vont être particulièrement, enfin plus discriminés en tout cas à l'embauche, etc. Comme nous, on est un tiers et que le dirigeant, il prend zéro risque, hein, parce que finalement, si ça lui convient pas en 3 mois, oui, il dénonce le contrat. Ouais. Donc en fait, c'est pas lui qui porte la responsabilité employeur, elle est mutualisée entre tous les adhérents. Donc finalement, il dit go, on teste. Et puis en général, ils sont super contents.
Ah, génial.
Donc ça nous permet de faire de l'inclusion aussi beaucoup plus facilement. Et donc en fait, les personnes en moyenne, elles restent 4 ans chez nous, pardon, avec des gens qui restent très très longtemps et des gens qui restent beaucoup moins longtemps. Et je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour nous. En fait, l'idée, c'est qu'ils donnent un maximum de valeur le temps qu'ils sont là, et que nous, on les accompagne suffisamment pour qu'on ait laissé une trace pour leur employabilité demain en formation. Voilà. Ouais. Mais forcément, voilà, il y a des... Et après, souvent, comme je dis maintenant, de toute façon, les cycles professionnels se réduisent beaucoup. Mmh. Et même en direct dans une entreprise, le cycle, il est plutôt de 3 ans maintenant que de 8 ou 10. Oui. Donc finalement, l'un dans l'autre, on est assez comparable à une entreprise classique, si ce n'est qu'on offre autre chose en termes d'expérience salariée.
Alors, en préparant cet épisode, Juliette, on s'est appelé et tu m'as dit que vous aviez quand même beaucoup, beaucoup de monde qui postulait chez vous. alors, justement, si on a une auditrice, un auditeur qui nous écoute là et qui se dit « j'ai eu mon tilt », c'est ça en fait qu'il me faut, c'est à la croisée de tout ce que je cherche. Quelles questions tu lui dirais de se poser pour être certaine que oui, c'est la bonne voie pour lui ou elle ?
Quelle est mon appétence au changement ? Quel est mon rapport au risque ? Si je me réveille le matin et que j'ai trouvé le job de mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Et en fonction de ce qui sera répondu à ces questions par rapport à ce que j'ai pu te dire avant, de savoir si ça matche, en fait. Le temps partagé, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, comme je te le disais, il y a des compétences un peu nécessaires. Il y a une envie particulière. Et donc, il faut vraiment se poser la question. Et c'est pour ça que nos processus de recrutement, nous, on est adeptes du recrutement long, même si tout s'accélère. Parce qu'en fait, il faut laisser le temps au candidat, à la candidate, de bien se poser la question. Donc, nous, nos entretiens, il y a un premier entretien vraiment sur les compétences. Mmh. Et le deuxième, et après, il y a un petit peu de temps qui est laissé. Et un deuxième entretien, vraiment sur le temps partagé.
Ouais.
Et ensuite, il y a encore un petit peu de temps et un test métier ou des choses comme ça. Et après, les rencontres avec les adhérents si on valide. Mais en fait, il faut se choisir mutuellement. Le temps partagé, ça ne peut pas être un choix par défaut.
Ouais.
Bah, c'est trop engageant, en fait.
Mmh.
Il faut donner... Voilà, il y a trop de choses qui sont particulières pour le faire par défaut.
Alors, j'adore cette notion du temps long dans un process de recrutement. En fait, je le trouve important. Des fois, on s'engage effectivement dans une entreprise ou dans un secteur parce qu'il y a tout un écosystème de signaux sur le moment où on se dit « Oh là, c'est merveilleux !» Et en fait, quand on prend le temps d'y réfléchir vraiment et de ressentir le quotidien, etc., en fait, ça ne nous plaît pas. Je trouve que c'est très chouette de revaloriser aussi ça et de dire « Bah, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est un engagement qu'on cherche sur le moyen-long terme ensemble. »
C'est ça. Et souvent, on les incite à appeler ou on les met en relation avec des salariés qui exercent déjà en temps partagé. Pour qu'ils puissent leur dire ce que ça fait de travailler comme ça.
C'est génial.
Qu'est-ce que ça engendre ? Parce que ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. Et ce processus de recrutement qui est assez long, ça va un peu à l'encontre de tous les conseils qui sont donnés en ce moment sur le recrutement, mais c'est pas grave. Il nous permet quand même d'avoir un taux de concrétisation à l'issue des périodes d'essai qui est énorme.
D'accord.
C'est-à-dire que nous, on a très, très peu de personnes qui partent en période d'essai.
D'accord.
Donc, en fait, le temps qu'on a, entre guillemets, perdu peut-être, ou même des candidats qu'on a peut-être perdu, parce qu'il y a des process qui sont allés plus vite en face, bah, en tout cas, ceux qui restent et qui choisissent vraiment ce modèle de travail, bah, du coup, on les fidélise après la période d'intégration.
Ouais, ok, trop intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui attire votre œil dans une candidature ?
Dans une candidature, il y a vraiment, bah, nous, on va rechercher ce côté curiosité. Et proactivité. Donc, tous les engagements, tous les projets qui ont été faits, les side projects, les engagements associatifs, enfin, tout ce qui est hors champ, en fait, professionnel pur, va nous intéresser énormément. Donc, ça, c'est une partie importante. Après, sur les compétences métiers, nous, sur un certain nombre de métiers où il y a vraiment besoin de compétences très particulières, on fait passer des tests. Donc, finalement, c'est pas ça qu'on va forcément identifier au tout démarrage. On va vraiment rechercher. Et puis, nous, on a des questions dans notre formulaire de candidature qui sont très spécifiques sur le temps partagé.
Mmh.
Donc, même quand quelqu'un dépose une candidature sur notre site, on l'incite déjà...
Oui, à y réfléchir.
À y réfléchir.
Mmh. Ouais. Tu m'amènes à une question que j'ai oublié de te poser, Juliette, pendant notre discussion. Justement, vous proposez quelles compétences, quels métiers à vos adhérents ? Je t'ai entendu parler de marketing, de compta, d'informatique. C'est quoi votre, votre liste ?
Mais dit comme ça, ça fait un peu... on fait tout. Non, en fait, nous, à l'époque, Veneti est née dans les fonctions de la production et a évolué avec son territoire. Et donc, on n'a plus du tout de fonction de production. Et on est passé entièrement sur les fonctions dites ressources pour le dirigeant. Donc, on est sur toutes les fonctions, on les appelle aussi support de l'entreprise, à savoir toutes les fonctions de gestion... avec la Citana polyvalent, office manager, comment on appelle ça ? Assistante de direction.
Oui.
Ou assistant de direction, d'ailleurs, aussi. Voilà. Et après, on est sur toutes les fonctions financières au sens large, donc de l'assistant comptable, comptable, contrôle de gestion, RAF, DAF, qu'on fait. On a même eu un poste un jour de M&A, de fusion-acquisition en temps partagé dans deux grosses ETI du territoire qui avaient des ambitions de croissance externe.
Mmh.
On fait évidemment tous les métiers de la communication et du marketing, donc à la fois le 360, chargé de communication 360, mais aussi des expertises du copywriting, du SEO, des expertises métiers. On a ensuite tous les métiers de l'informatique, donc effectivement, essentiellement quand même des métiers liés à la gouvernance des PO, mais aussi des métiers de RSSI, des métiers de la cybersécurité. On a les métiers des achats, métiers du juridique d'entreprise. Et après, on a ce qu'on appelle les métiers sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. À partir du moment où un adhérent nous dit « j'aurais besoin de telles compétences 2 jours par semaine », nous, notre rôle, c'est de voir avec tous nos autres adhérents s'ils n'auraient pas un besoin complémentaire de créer le poste et de recruter la bonne personne. Donc, par exemple, on a déjà fait aussi des postes d'infirmiers en santé au travail.
Ah oui, d'accord.
voilà, qui rentrait dans aucune des cases que je viens de te citer.
Intéressant.
Mais il se trouve que sur notre territoire, on a beaucoup d'industriels en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et en fait, il y a des seuils. Quand on les dépasse en nombre de collaborateurs, on a l'obligation d'avoir un infirmier ou une infirmière en santé au travail. Mmh. Or, évidemment, quand on dépasse juste le seuil, on n'a pas besoin à plein temps. Oui. Mmh. Donc, si on peut le mutualiser avec une entreprise qui est en train de passer le seuil aussi, c'est bien. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de limite au temps partagé. Enfin, la seule limite, c'est la créativité des dirigeants et des équipes du groupement.
Génial, trop bien. Donc les portes sont ouvertes en fonction des besoins des adhérents, trop bien. Super. Génial. Et j'ai une dernière question pour toi, Juliette.
J'ai oublié un truc.
Oui, vas-y, dis-moi. Ouais.
Tous les métiers de la RH, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais. C'est évidemment le métier qu'on fait énormément.
C'est que tout à l'heure, j'y ai pensé parce que lors de votre soirée à la coloc, il y a quelqu'un de chez vous qui
Sandrine,
qui a une fonction RH depuis, je sais pas, 15 ans chez vous.
C'est ça. Plus, exactement.
Qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà.
Ouais. Le métier qu'on fait beaucoup parce que souvent, quand on se structure, quand on a une entreprise, et qu'on, c'est la RH dont on a besoin. Mm-hmm. Donc on le fait beaucoup.
Super. Top. On la rajoute. Alors, ma dernière question, qui est ma question signature donc, que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs qui te conseilleraient et te soutiendraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans ?
Alors, je suis désolée, mais je vais te décevoir. J'ai déjà un board de rêve.
Ah, mais génial, génial. Ça m'arrive de temps en temps avec mes invités, donc super.
En fait, du fait qu'on soit une association,
ouais.
J'ai 20 dirigeants d'entreprise et DRH qui sont membres de mon conseil d'administration et qui sont mon board de rêve parce qu'ils sont tous géniaux, ils ont tous des aventures entrepreneuriales, une connaissance de l'entrepreneuriat, des compétences aussi chacun différentes. Et donc, j'ai cette immense chance d'avoir un super board à mes côtés. Donc,
si je peux faire une petite triche, parce qu'ils sont 20.
Vas-y.
Non, je rigole.
Oui,
c'est que chez nous, on est 3.
Non, mais voilà, j'en voudrais aucun autre. Ils sont juste géniaux.
Super, génial. On les garde.
On les garde tous.
Juliette, un grand merci. Je mettrai tous les liens pour découvrir Venetis dans la description de ce podcast. Et je te dis à bientôt.
Je te remercie. À très bientôt, Léa. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Juliette Mucchielli. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir ce modèle de travail qui allie flexibilité, pluralité des projets et sécurité de l'emploi. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.